le premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionce dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas le son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Oh, les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel et en diffusion un peu partout en France et un peu tout au long de la semaine dans pas mal de radios locales. Tout d'abord, il y a du monde autour de la... Allez, bon, voilà, de la table. Donc tout d'abord, il y a Jade.
Salut.
Il y a Rose.
Salut.
Il y a Louise.
Salut.
Et il y a Inès au bocal.
Salut.
Et donc Serge qui vous salue. Donc L'Envolée c'est quoi? L'Envolée c'est une émission qui donne la parole aux prisonniers et à leurs proches. Je suis désolé si je suis un peu essoufflé, mais j'arrive grave à l'arrache. Voilà, on vous racontera pourquoi dans quelques instants. Mais donc L'Envolée c'est une émission qui donne la parole aux prisonniers et à leurs proches et qui relaie particulièrement les luttes qu'il y a à l'intérieur des lieux de privation de liberté, que ce soit les centres de rétention administrative, les hôpitaux psy ou les tôles. Voilà, et aujourd'hui, donc pour nous appeler tout au long de la semaine, vous pouvez nous appeler au 07 53 10 31 95 ou là en direct pendant une heure et demie au 01 40 05 06 10. Vous pouvez aussi nous écrire à l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris. Vous pouvez abonner vos proches qui sont à l'intérieur, c'est gratuit pour les prisonniers, pour le journal. Et vous pouvez nous écrire par mail à contact@l'envolée.net et les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Ouh, ça y est, tout est annoncé. Donc, on va avoir, on va commencer par des lettres, donc de Kémy, Redouane et
non, Pascal.
Pascal, pardon, désolé. Kémy, Pascal et deux lettres qui nous viennent de personnes qui ont été déportées de Kanaky. Après, on va faire de la politique fiction ou en tout cas voir ce qui risque de nous pendre à la gueule là prochainement, et puis on reviendra sur un procès qui s'est déroulé cet après-midi contre une belle saloperie de maton, mais c'est un pléonasme. Donc on va commencer par la lettre de Kémy.
Ouais, je vous la lis. Coucou les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère. Désolée de ne pas avoir donné plus souvent de nouvelles. Depuis mon arrivée à Moulins, ma situation a bien évolué. Maintenant, je travaille, je suis l'oxy d'étage. C'est moi qui nettoie l'étage et qui sers le repas aux détenus. C'est cool, ça me fait passer le temps et ça me permet de cantiner un peu. D'ailleurs, j'ai organisé une cantine solidaire. En gros, pour expliquer vite fait, avec d'autres détenus, on a décidé de cantiner pour ceux qui n'ont pas de soutien. On va renouveler le truc, ça permet que tous les mecs soient au même niveau. Ça évite les tensions et j'avoue que ça fait plaisir d'aider. Bref, j'ai commencé à faire les démarches pour mon aménagement de peine. Je vais demander à sortir en permission de sortie avec les moniteurs de sport. Il y a 90% de chances que ça soit refusé, mais ça me coûte rien de faire la demande. La fin du tunnel est proche. Je pense être sortie dans 1 ou 2 ans. Sur le papier, je suis libérable en 2032, mais si tout se passe bien, je pourrais avoir mon aménagement. En plus, j'ai entendu dire qu'il faisait sortir, même si ma SPIP laisse entendre que j'ai mes chances. Je sais que je dois me méfier, mais là, j'ai envie de croire que j'ai mes chances. Donc j'essaye de rester loin des problèmes et je fais profil bas. Ici, je respire un peu. La paix n'est pas sur mes côtes et les matons sont tranquilles. Il se passe des trucs chelous comme dans toutes les 11, mais moins que ce que j'ai pu connaître. Il continue à faire des trucs chelous avec mon courrier, mais je vais mettre le baveux sur le dossier, car c'est toujours les mêmes destinataires qui sont ciblés. Ils m'ont aussi refusé une visite avec une amie par mesure de sécurité. Ils disent qu'elle risque de causer des problèmes. C'est des ouf. Avec une autre amie, ça fait 2 ans qu'on essaye de faire parloir, mais à chaque fois, sa demande de permis est refusée. Par contre, ils m'ont enfin accepté le parloir avec le poteau. Big up à toi, poteau. Trop hâte de te voir au parlu. Bon, je vous laisse pour ce soir. Big up à toutes et à tous. Prenez soin de vous. À bientôt. Il n'y a pas d'arrangement. On lâche rien. Kémy.
Bah, merci beaucoup pour cette lettre, Kémy. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles et de savoir que ça va globalement quand même mieux pour toi que l'année dernière où il y a eu des moments hyper chauds dont on a pas mal parlé à l'antenne. Mais déjà, quand même, ce qu'on peut dire sur cette lettre, c'est que ce truc de cantine solidaire, c'est quand même vraiment hyper chouette que vous fassiez ça avec les autres prisonniers et tout, et que c'est une super forme de solidarité pour les gens qui galèrent à l'intérieur en n'ayant aucune cantine, quoi.
Bah, de ouf. Et surtout qu'en plus, généralement, la paix réprime ce genre d'actes de solidarité, puisqu'après, soi-disant, tout ça, va y avoir du racket et tout le bordel. Voilà. Et donc, là, de les prendre à leur propre jeu, et tout ça, c'est vraiment trop chouette, et tout. Et en plus, je pense que c'est encore plus cool de. Enfin, c'est encore plus malin de l'annoncer publiquement, ce genre de truc, parce qu'en fait, ils vont difficilement pouvoir, après, derrière, enfin, en tout cas, plus difficilement pouvoir revenir dessus en disant, ouais, enfin, voilà quoi. Tout là, vous le jouez clairement carte sur table et tout, et donc ils vont pas pouvoir commencer à dire ouais, tous les trucs qu'ils disent de mauvaises intentions blabla et tout, on les connaît là-dessus quoi, voilà. Et en vrai ouais, ça fait plaisir de ouf de voir que ça va mieux pour toi, et surtout enfin bon, déjà voilà, en plus oxydétage, c'est quand même bon, voilà quoi, toi-même tu sais quoi, ça fait quand même partie des oxys où c'est cool, enfin tu vois du monde et tout ça, tu m'étonnes que ça passe le temps après la misère qui t'ont foutu à l'isolement et tout, putain tu dois bien sentir la différence quoi, et voilà, et c'est trop stylé que quand tu vois au moment où on sort de l'isolement et tout ça, l'un des premiers trucs qui te vient à la tête, c'est de faire des bails de solidarité. Grand cœur, quoi. C'est quand même vraiment cool. Et tout. Et puis, bon, bah voilà, les bails de parlu, en tout cas, c'est cool, parce que aussi, ça donne l'impression que t'arrives à prendre des distances sur les saloperies qui te font, sans. se voiler la face sur le fait qu'ils sont en train de faire quelques saloperies. Voilà, on connaît l'administration pénitentiaire. Mais bon, en tout cas, t'as l'air de le prendre avec vachement plus de philosophie et le sourire. Et je pense que c'est mieux comme ça. Après, voilà, tu sais, tu connais la phrase, quoi. L'espoir, c'est ce qui tue à petit feu, quoi. Voilà, bon, de toute façon, ça n'a rien de te le dire, parce que toi-même, tu le dis dans ta lettre qu'il faut faire gaffe à ça. Mais voilà, on sait qu'ils ont toujours la main là-dessus, quoi. Donc, et là, on l'espère.
Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que Kémy rentre dans l'espèce de grand parcours pour espérer peut-être un aménagement de peine, et qu'en fait, c'est... Bon, là, ça fait trop plaisir d'avoir une lettre où on a l'impression que t'as la pêche et tout. Mais en fait, ça, c'est de fait un parcours du combattant où, en fait, t'es censé donner tout un tas de gages à l'administration pour que peut-être il daigne filer un aménagement de peine, quoi. Et donc, notamment les permissions de sortie qui sont hyper galères à avoir. Mais en fait, c'était un peu en train d'entrer dans cette phase-là. Et en fait, tu le sais, parce que tu dis ce truc d'espoir. Mmh. En fait, c'est clair aussi que quand tu commences ce truc-là, où en fait, déjà, tu prends de ouf sur toi pour tenir à peu près à carreau, parce que sinon, tu peux pas du tout espérer ce truc. C'est aussi quelque chose qui tient à l'intérieur de vouloir obtenir un aménagement de peine, d'obtenir les permissions de sortie, etc. Bah, en fait, c'est compliqué de pas du tout espérer aussi dans cette situation. En fait, forcément, tu mets plein de trucs en place dans cet objectif-là de pouvoir sortir, quoi.
Oui, puis même si tu penses que tu as 90% de chances de refus, bah en vrai, tu te restes toujours les 10% et les 10% ils te font toujours espérer. Et que t'as beau être réaliste et très bien, et Kémy connaît très bien la paix et ses manières de fonctionner, bah en fait, l'espoir, enfin, à la fois, bah, c'est un truc qui te nique et à la fois, c'est un truc qui te fait tenir, quoi. Et moi, je voulais revenir aussi sur ce truc de solidarité, de cantine solidaire et tout. Et je pense que c'est, enfin, sur la bouffe, c'est un truc juste essentiel et qui est déjà de plus en plus cher et qui est, enfin, tout le temps. Et quand tu dis, en fait, ça permet aussi de remettre tous les détenus au même endroit, c'est un truc super important, en fait, quand t'as pas la thune de cantiner. Bah, en fait, c'est sûr qu'il y a des grosses différences et faire un truc pour qui gomme et qui participe à recréer de la solidarité entre les gens, bah c'est franchement c'est super stylé, franchement bravo à toi, quoi, et aux autres aussi, parce que tu dois pas être tout seul à faire ça.
Et permission de sortie, de toute façon, c'est à force aussi de les demander que parfois on les a, quoi. C'est aussi un truc d'usure que fait la paix, qu'en fait faut les demander peut-être 10 fois avant de pouvoir potentiellement en avoir une, quoi.
Ouais, c'est ce truc là, le truc du bail de sport, tu sais qu'ils vont te le refuser, mais dès le début faut commencer à les faire chier là-dessus. Parce qu'il y a, voilà, tu vois, au début, bah, de toute façon, enfin, c'est un truc qu'on décrit en tout cas régulièrement à cette antenne, c'est que la première fois, ils vont dire non, la deuxième fois, ils vont dire oui, mais ça va être le proc qui va faire appel, et puis ça va être en cours d'appel qu'ils vont te le refuser. Et puis, voilà, bah, après, le truc, c'est que tout ça, ça repart, et que t'en as re pour 6 mois, 1 an, en reposant tes demandes et tout ça. Mais voilà, et une fois que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que t'as eu ta première perme, il y a un bail qui se passe, voilà, où ça devient tout de suite vraiment plus facile pour tes baveux de dire non mais en fait ça y est, il a mis une fois un pied dehors. Enfin, il y a toujours ce truc en fait qui arrange et tout. Voilà, et donc voilà, 2032, ça sera avant. Le truc, c'est que la question, c'est combien de temps avant, et tu sais que ça, enfin, en tout cas, tu sens bien que c'est un long combat, voilà, qui va se passer. Mais bon, ça fait plaisir, quoi. Que de chemin parcouru en un an et demi, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un an, c'était des matons qui torturaient et qui te réveillaient toutes les nuits et tout, quoi. Sortie d'isolement, étroxy, étage. Vas-y, enfin, voilà. Autant que ça peut être cool d'être enfermé entre 4 murs, en tout cas, la situation, là, c'est vachement plus chouette. Ouais, et kiffe tout tes parlus. Voilà, et passe le bonjour au poteau aussi, parce que nous, toi tu nous écoutes, mais nous on le voit pas souvent, tu vas peut-être le voir plus que nous, donc voilà.
Mais oui, puis ça fait du bien de voir que justement ce que tu dis, que tu respires un peu après tout ce que tu avais vécu, ce que racontait Serge là. Mais bon, en même temps que la paix reste la paix, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il refuse toujours des parloirs, que ses courriers sont refusés, et que ben voilà, il y a des trucs qui bougent pas. Mais en même temps. Ben voilà, je pense que la vie soit plus facile pour toi. Ben, franchement, tu le mérites aussi, enfin tant mieux, quoi. Après tout, c'est...
On passe à la seconde lettre, donc Pascal.
Alors, c'est une lettre du coup, qui date du samedi 14 septembre du CP de Poitiers-Vivonne. Bonjour l'envolée, merci en tout cas pour les lectures de mes différents courriers, à l'antenne en plus. J'écris avec sincérité et selon mon vécu d'homme et de détenu. Même si un détenu reste un homme, et une femme aussi, n'oublions pas celles qui sont très nombreuses entre ces murs. J'ai le plaisir d'être devenue pote, amie avec certains ici. Certaines, pardon, ici. Des échanges riches et humains. De plus, ma longue, voire très longue incarcération ne passe pas inaperçue ici. Merci également de porter la parole des personnes enfermées à l'extérieur, voire celles des personnes condamnées à finir leur vie enfermées. Certes, il y a eu des drames, des raisons d'incarcérer, mais parfois la justice a la main lourde. Moi, je dis qu'elle croit que la peine capitale est toujours de mise. Ici, qu'il s'agisse de l'administration ou de co-détenus, on me dit que j'ai pris cher. Comme si cela devait avoir un coût. Ah, on a voulu me couper le cou, mais désolé, le hachoir est remis au placard. J'espère ne pas vous choquer par mes propos. Malgré des relations respectueuses avec le personnel, cette détention est difficile. Une personne sympa m'a dit qu'effectivement, après une longue incarcération, on peut imaginer que tout va. Mais le moral, le psychique, le physique annoncent saturation. Stop. J'ai connu par trois fois le CNE. Premier passage obligatoire pour les longues peines, puis ensuite pour envisager un aménagement de peine. Comme si les choses pouvaient changer entre Fresnes et une maison centrale. Je n'ose pas dire que l'on fait partie des meubles après plusieurs années de présence dans le même établissement, mais on nous connaît, surtout humainement. La chose est encore possible de garder un peu d'humanité. Si je pourrais dire à celles et ceux qui croient que les miracles existent pour les perpétuités, que c'est faux. J'aurais des arguments pour les convaincre qu'il et elle se trompent. Je connais quelques garçons toujours enfermés après plus de 40 ans. Certes, chacun a son histoire, mais n'y a-t-il pas de solution pour une personne âgée de plus de 80 ans ? Oui, j'insiste sur ce sujet des longues, très longues peines, mais je suis concernée. Je n'oublie pas les autres, mais RCP, cela veut bien dire ce que ça veut dire, mais qui ne devrait pas être. Je sais qu'à l'extérieur, il y a des personnes qui disent que c'est mérité, mais venez écouter l'histoire, la vraie, pas celle des journaux, des juges. À propos des questions, je viens de recevoir un questionnaire, c'était hier, de la part de l'OIP. Long questionnaire concernant les conditions de détention, les suicides et tout ce que l'on vit ici. Je m'empresse de le remplir et avec les détails nécessaires. Dommage que je ne puisse pas écouter la radio, peut-être un jour prochain, si, hélas, je retourne au CNE. Écouter la radio serait un plaisir. C'est le CNE qui est une contrariété. Un grand bonjour à toute l'envolée. Pensez aux camarades détenus. Pascal.
Merci beaucoup. Je sais pas, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ta lettre, mais peut-être, en fait, le bail principal, c'est cet aspect longue peine, qu'on a pour habitude de rappeler toujours à l'envolée. C'est le fait que Badinter a supprimé la peine de mort, mais les a remplacées par des peines à vie, et que la tôle continue de tuer, que ça soit par les mains de ses agents, en suicidant des gens, ou en laissant soit mourir à petit feu de vieillesse, soit par manque de soins et tout. Et que ça, c'est clair que la société, de manière générale, n'en a vraiment pas grand chose à foutre. Donc voilà. Après, j'avoue qu'il y a pas mal de bails sur lesquels tu fais des liens que je ne suis pas sûr d'avoir trop capté. Par exemple, j'ai pas trop compris, mais donc ça doit être, t'as passé deux CNE d'aménagement de peine.
Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, il y a eu deux peines différentes et du coup, il a fait son CNE, le premier CNE et le deuxième de sortie. Et ensuite, là, il en a refait un quand il est rentré, quoi.
Ok, désolé.
Et puis il y en aura peut-être un quatrième, c'est ce qu'il
explique. Ça y est. Le CNE, de toute façon, c'est toujours un moment extrêmement désagréable. On avait eu des lettres au début, c'est pas Blanche.
Blanche nous parlait du CNE. Et de comment il se faisait chier avec des activités trop nulles et qu'il avait l'impression d'être jugé, quoi. C'est les trucs qu'on dit d'habitude sur le CNE.
Le CNE, c'est vraiment quand même un lieu extrêmement particulier où t'es fortement surveillé par tout le monde. Il y avait eu un documentaire il y a un an ou deux, je crois, là-dessus, qui était vraiment affreux, où en fait tout ce que tu faisais de toute façon était lu dans nécessairement un mauvais sens, ou en tout cas un sens qui allait dans le sens de l'étiquette qu'on t'avait déjà collé, quoi. Et donc c'est toujours un moment assez désagréable parce que tu dois tenir pendant longtemps. sous l'œil scrutateur de tous ces gens, quoi.
Et que c'est un moment décisif, parce que c'est aussi le truc, c'est que le rapport qu'ils font sur toi, ils décident, bah, pour le CNE d'affectation, ils décident aussi si tu vas être envoyé en CD ou en centrale, et sur le CNE de fin de peine, de le type d'aménagement que tu peux obtenir et du temps que ça va prendre. Donc c'est non seulement un moment où t'es grave surveillé et où t'es genre tout le temps regardé, qu'en fait le maton qui t'ouvre ta porte, il peut mettre quelque chose dans le rapport sur comment tu te comportes, donc c'est vraiment hyper intense. Et en plus, c'est un moment grave décisif, donc il y a vraiment les deux trucs, quoi.
Non, c'est clair, c'est vraiment l'enfer, quoi. Après, voilà, je sais pas trop comment ça se passe avec les matons et tout ça. On sait malheureusement généralement ce qui se cache derrière comme tu le dis, relations respectueuses, c'est qu'au bout d'un moment, s'il y a une merde et tout ça, en fait, le maton, il sera toujours contre toi et tout. Et donc voilà. Donc Sylvia, elle a quand même souvent pour habitude de rappeler que ouais, il y a des matons qui sont plus ou moins polis. Mais à la finale, c'est toujours eux qui décident et c'est toujours eux qui t'enferment et c'est toujours eux qui ferment la porte de ta cellule et tout, quoi. Donc voilà. Après, ce bail de miracle, je sais pas sûr d'avoir trop compris, mais c'était ce truc de. Enfin, en fait, j'en comprends que c'était le fait de réussir à être libéré alors que.
Tu parles de la grâce, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, un truc. Enfin, on a compris la même chose. Voilà. Bah, en tout cas, ce truc de vieillir en détention et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient âgées à l'intérieur, c'est. C'est voilà, l'administration par exemple fait des petits colloques pour savoir bah alors comment on fait pour qu'il y ait des grabataires qui soient en prison et tout, donc eux ils se avec des médecins tout ça, ils se posent les questions la question c'est pas savoir est-ce qu'il faut que les gens y sortent et tout ça, hein. Comment on va les enfermer avec un peu de dignité, donc va falloir qu'on ouvre les portes parce que quand même un fauteuil roulant c'est pas très facile, voilà, oui, mais est-ce que ça va être les matons qui vont devoir leur nettoyer les fesses, voilà, est-ce qu'on va avoir un budget couche, voilà. Donc ça c'est les questions humanitaires et humanistes que se pose l'administration pénitentiaire, qui sont absolument affreuses, voilà. Mais des gens qui savent qu'ils vont mourir en détention parce qu'ils ont pris des peines de dinosaures et qu'ils sont déjà vieux, il y en a de plus en plus. Je pense à Césario qui nous avait écrit, qu'on avait mis dans le journal il y a 3-4 numéros, et qui lui demandait la possibilité de l'euthanasie. Nous on se posait un peu la question, quoi, mais voilà, mais ouais, c'est un truc qui arrive de plus en plus, voilà, et qui risque de plus en plus arriver avec des nouvelles formes de condamnation et tout. Voilà. Mais non, malheureusement, un miracle, j'y crois pas trop.
Justement, en plus, c'est ce que tu racontes quand tu. Parce qu'il y a une partie où je pense que c'était pas forcément très clair pour tous les gens qui nous. Enfin, pour les gens qui nous écoutent. C'est la partie où tu parles des longues peines et donc des RCP. Et donc, pour être un peu clair, quand tu dis RCP, c'est donc la réclusion criminelle à perpétuité. Et du coup, c'est donc une peine à perpétuité qui est prononcée par une juge avec assortie d'une période de sûreté. Pour toi, dans mes souvenirs, si je dis pas de conneries, c'était 20 ans. Et que du coup, pendant ces 20 années-là, tu peux pas demander d'aménagement de peine, tu peux pas demander de permission de sortie, tu peux globalement rien faire. Et voilà, on te dit que tu vas mourir en prison. Et encore plus quand tu as entre 70 et 80 ans, on sait ce que ça signifie, en fait, ce genre de peine. Et les juges savent très bien ce que ça signifie. Et donc, voilà, ça signifie que... Et c'est ce que tu racontes très bien, en fait, sur ce truc des longues peines. C'est que, en fait, tu... Enfin, voilà, la sentence qu'on te donne, elle veut dire en fait que tu vas finir par crever en prison, quoi. Voilà, je voulais juste revenir sur cette petite clarification.
Yes. On va passer un coup de musique avant de continuer les lettres.
Lord, I don't know what we gotta do, son. You know what I'm saying? Hold up. Make that millions, fam. Down. Only there for the taking, son.
Take it on, baby.
Matter of fact, let me get some of that beer, son. Just drunk all that shit.
Yeah. 41st side convention, Queens connection. The bridge we rapping. Any party that we step and get the handy up. The SOP immediately. Extra bent, riding out, sun is seven, and we stash cream. Mansions fulfill my dream, ice rings gleam. Spread love throughout the whole team. Dominate the game with several combinations. No conversation, bring on your good competition. You hesitating, ass betting. That's bad business. For the game, nigga, get out the business. You waste space, substitute, here's a replace. We deface, smack the smile off your fucking face. Change your taste, send your home back to vacate. Get your shit together, plus your mind straight.
Yo, my empire strikes with the strength of poisonous snakes. My entire unit loaded up with snake niggas at high stakes. We pull off at high stakes. Great escapes, the span shift team downstate. Dreams of growing old with my son to live great. Little man, I plan to enhance your mind state. The rebirth, a nigga who lived the ill life. The one before me was the one even more trife. My understanding, I raise you with precise planning. It puts you on to the whole game of this planet. But I gotta survive in order to follow through plans to live lotto. Me and my little kiddo. Any man trying to stop us, he get wet though. You couldn't withstand a snake bite, there is no antidote. You put your hands too close and try to approach. I won't snap at you, I'm going for throats. And when you feel my bite, you sing high notes. I peeped you from deep and then you got cut close. My formula, I live life, do or die. Staring to the eyes of a deep wise guy. Prodigy, turning niggas to proteges. My protege, I advise your ass to make way. For fully auto gun spray, your small prey. I'll easily bait and trap game. This man is half mad, scientist half sane. Create a rhyme labyrinth like poisonous cannabis. Here, take a token of this, deadly rare vocalist. Overpower your tiny noise like locust. Like sunlight through a magnifying glass, I'll focus and burn a hole straight through your brain and leave you open. And let the venom soak in. You start sweating and going through convulsions from dope shit I read. Leaving niggas stuck, I let stick. Trapped up in the web of a nigga that's sick. I wrap you up in a cocoon, get caught up in the mist. A dangerous, it's risky business, fuck with this. Contender number one, I put you on top of the list. You're the best challenger so far, I'll give you this for peep this. Fatal shots, the solar plex, man down. Now who dares to go next? Like General Monk, Monk orders to chop next. I send a message to my whole clique, the bomb shit. Atomic, no time for calm shit. We hyperactive when it's time to Vietnam pit. Your whole alliance gets single-handedly palmed it. Take heed to the apostles' warning.
Vous êtes de retour à l'écoute de L'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel et en diffusion un peu partout en France, un peu partout, enfin durant un peu toute la semaine, pas partout en France. Donc L'Envolée, pour nous appeler, vous pouvez nous appeler en direct là en ce moment au 01 40 05 06 10. Vous pouvez aussi nous appeler sur les bigots au 07 53 10 31 95. Vous pouvez nous écrire à l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris, par mail contact@l'envolée.net et les réseaux sociaux Insta, Twitter et Facebook. Donc on voulait continuer avec des lettres qui nous ont été écrites par des personnes qui ont été déportées. On en avait pas mal parlé dans les émissions précédentes et on va bientôt refaire une émission à ce sujet. Et dans les dernières émissions, Julie, elle nous avait un peu parlé, mais on cherchait des infos, d'avoir savoir, enfin on savait qu'il y avait déjà 8 personnes et voilà, c'est en fait d'une bien plus grande ampleur que ce que avait été préalablement annoncé. Et donc là, on est à une soixantaine, 80 personnes qui ont été à minima déportées. Le listing, il est toujours en cours. Et donc là, il y a des extraits de lettres de deux personnes qui nous ont écrites. Voilà.
Ouais, on va lire les deux lettres à la suite parce qu'elles parlent toutes les deux de cette question du transfert déportation vers la métropole. Bonjour l'envolée. Je voulais vous remercier pour toute votre sympathie et votre solidarité envers mon pays Kanaky. Merci pour vos mots qui me donnent de la force et du courage. Car en ce moment, c'est un peu difficile pour moi, car je ne connais personne ici à qui parler. Il y a 3 semaines déjà que je suis là et je n'ai pas pu croiser un seul Kanak de chez moi. Je m'adapte petit à petit à cette prison qui est différente de celle de Nouméa, c'est plus grand. Mais je ne me plains pas pour ça, c'est juste qu'ici, pour avoir des biens électroménagers comme une bouilloire, un ventilo, un frigidaire, une télécommande de télé, etc., il faut acheter en cantine. Mais je n'ai pas assez d'argent pour faire ces achats. Je l'utilise plutôt dans le téléphone pour donner de mes nouvelles à mes proches, et comme nous sommes très éloignés de mon pays, ça coûte cher. Je voudrais que vous sachiez qu'ils nous ont pris à froid. Nous savions même pas que nous étions transférés ici. Ils nous ont même pas laissé un jour pour prévenir nos familles. Ils nous ont convoqués le samedi 22 juin 2024, toute l'après-midi, un par un dans le bureau du chef, pour nous dire que nous serons transférés le soir même, à 20h du soir. Ils nous ont aussi forcés à signer un papier comme quoi on était d'accord pour ce transfert, alors que ce n'était pas le cas. Presque tout le monde a refusé, mais ils nous ont dit qu'on n'avait pas le choix. Même si on ne signait pas, ils vont le faire à notre place et nous serons transférés quoi qu'il arrive. Ils nous ont donné un carton et ils nous ont dit d'aller mettre toutes nos affaires à l'intérieur. Le soir même, nous sommes partis et personne n'était au courant, même nos proches. Ensuite, on est arrivés ici. On était tous dans la prison de Réau Sud Francilien et le lendemain matin, ils nous ont dispersés un peu partout dans les prisons de France. Moi, j'ai été transférée tout seule et les autres, je ne sais pas où ils sont. 2 jours après mon arrivée, j'étais en entretien avec mon éducateur et je lui ai demandé s'il savait les causes de nos transferts. Il m'a répondu que c'était à cause des émeutes qu'on avait faites dans la prison de Nouméa, le soir du 14 mai 2024 à 22h. Mais il ment, car il y a des détenus qui n'avaient rien fait ces jours-là. Je ne voulais pas forcément venir en France dans ces conditions. Mais aujourd'hui, je fais avec et je garde toujours la tête haute quoi qu'il arrive. Je vais tout faire pour essayer de m'adapter du mieux que je peux. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je voudrais finir ma peine et rentrer chez moi le plus vite possible en travaillant et faisant beaucoup de formations et des activités qui me permettent d'avoir des remises de peine. Je vous remercie d'avoir une pensée vers moi, je suis sincèrement touchée par votre lettre qui me donne le sourire. Je vous souhaite que du positif et merci encore pour votre solidarité. Courage à vous dans votre lutte et à bientôt. La lutte continue, Kanaky vaincra un jour.
Et ensuite je vais vous lire la deuxième lettre. Bonjour l'envolée. J'ai bien reçu votre courrier et je veux me remercier beaucoup pour votre solidarité et votre pensée partagée. J'ai été incarcérée en 2023 après ma sortie en conditionnel en Kanaky, au centre pénitentiaire de Nouville, à Nouméa. Et le jour du samedi 22 juin, dans l'après-midi, vers 15h par là, un surveillant ouvre ma cellule et me dit que le directeur veut me voir. Je lui demande « qu'est-ce qu'il y a ?» Le directeur veut me voir alors que nous sommes samedi. C'est le week-end normalement, il ne travaille pas. Je vais le voir à son bureau en me demandant qu'est-ce que j'ai fait. J'arrive à son bureau et ils me disent qu'ils vont me transférer en France. Moi, je leur dis direct « Ah non, je veux pas moi, je signe rien. » Ils me répondent « Si c'est obligatoire, c'est je sais pas qui leur a donné des noms et j'en fais partie pour être transférée en France. » Ils m'ont dit « Là, on te laisse un quart d'heure. » Ils m'ont donné un carton et m'ont dit de mettre mes affaires dedans. J'étais beaucoup énervée. Parce qu'en plus de ça, je peux même pas prévenir ma famille. Ils ne veulent pas me laisser appeler. Ils me disent ça le jour même, à moi et à tous mes frères détenus. Mais ça nous a très énervés, parce que ça n'était pas de notre plein gré. Ils nous ont transférés de force, sans demander notre avis. Ils nous ont prévenus le jour même, qu'on part le soir même. Alors qu'ils étaient déjà informés, et après... Enfin, ils étaient déjà informés, et qu'ils devaient nous transférer déjà une semaine... Enfin, qu'ils étaient déjà informés de nous transférer déjà 1 à 2 semaines avant, d'après les ERIS et les ELSP qui nous ont transférés, d'après ce qu'ils nous ont dit. Ça nous a beaucoup énervé, ça. Mais sinon, nous étions au moins 10 à être transférés. On s'est encouragés entre nous. On a regardé le positif des choses. On s'est dit, ça va aller les frérots, on va essayer de revenir mieux chez nous. Malgré ce qu'il se passe chez nous en Kanaky, c'est comme ça, c'est le combat. Mieux vaut mourir debout qu'à genoux. Après voilà, maintenant, je vis ma vie carcérale. Ma pensée, c'est chercher du travail, une formation, faire ici tout ce qui va me servir pour ma sortie. En tout cas, merci à vous pour votre partage. Je suis très content d'écrire pour libérer ma pensée. Merci beaucoup.
Bah, merci beaucoup à ces deux prisonniers qui nous ont écrit. Donc, comme Serge le disait, globalement, ils ont transféré plusieurs dizaines de personnes. Et en fait, ils les ont répartis dans toutes les tôles de France. Donc, c'est aussi des personnes qui sont hyper isolées, qui débarquent de manière hyper brutale, sans du tout avoir été préparées, sans avoir pu prévenir leur famille. Et qui sont en fait souvent seuls, en tout cas venant de Kanaky, dans les prisons de France dans lesquelles ils sont, quoi. Donc c'est un isolement qui est quand même extrêmement fort, en plus du fait que, comme je disais, pas de news aux familles, où en fait on sait qu'il y a des familles en Kanaki, qui ont passé plusieurs jours à chercher leurs proches sans savoir s'ils étaient à Caen Est ou à la prison de Koné ou alors dans une prison métropolitaine, et que par ailleurs le téléphone coûte hyper cher. C'est-à-dire qu'on dit souvent à l'antenne que le téléphone déjà en métropole pour appeler, quand t'es dans une tôle de métropole pour appeler des gens en métropole, c'est déjà du vol, mais en plus pour appeler dans des pays étrangers ou dans les Martinique, Guadeloupe et Kanaki, c'est encore plus cher tout. Donc c'est pas forcément En fait, voilà, le truc des cantines dont il parle, de privilégier le téléphone, c'est aussi vraiment un truc de privation quotidienne pour pouvoir entretenir quand même quelques liens avec une famille qui a 10 000 km et qui, en fait, ne peut pas du tout venir faire des parloirs, quoi.
Oui, puis ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que c'est à la suite de révoltes dans la prison de Nouméa et qu'en fait, c'est aussi... Enfin, ces déportations, c'est toute une logique de l'administration pénitentiaire, en fait, pour en fait, déporter les gens à plus de 10 000 km de là où ils vivent, de là où ils ont leurs liens familiaux, de là où, en fait, ils sont... Enfin, de là où ils sont en prison, donc en fait ils ont aussi des liens à l'intérieur de la prison et que en fait ils arrivent dans un pays où ils connaissent personne. Et c'est, en vrai, c'est assez beau ce que tu racontes dans la deuxième lettre de la solidarité qu'il y avait entre vous au moment de cette déportation, et que en fait c'est des trucs que clairement la paix veut casser. Et c'est aussi ça que en fait il se passe quand ils sont à Réau et qu'en fait on les dispatche dans plein de prisons différentes, et c'est ce que la paix a très bien compris. Et donc toi t'arrives tout seul. Et en fait, tu connais personne, les gens ils savent pas quitter, donc forcément, enfin, ça prend du temps aussi de faire confiance, d'être dans un de connaître les gens et puis de faire sa place, quoi. Donc forcément, c'est la solitude et le manque de très proches, il est encore il est 10 000 fois pire, quoi.
C'est vraiment une dinguerie, quoi, mais à tous les niveaux. Enfin c'est affreux. Peut-être rappeler en fait aussi le contexte de colonial qui a en Kanaki. La Kanaki, au niveau du droit international, c'est pas du tout un territoire français, en fait, c'est un territoire sous occupation, qui est dans une phase je sais plus comment on dit là, mais en fait, on règle le truc de décolonisation. Mmh. C'est ça, dans une phase de décolonisation, il y a différentes manières de pouvoir acquérir cette décolonisation. C'est soit on se met d'accord collectivement pour que ça reste en l'état, soit en fait les Français se barrent, quoi. Vraiment, c'est extrêmement schématisé, c'est dégueulasse. Mais juste en fait, dans ce contexte-là, rappeler qu'en fait, au niveau international, en fait, la Kanaki n'est pas un territoire français, et n'est pas. Et donc, à partir de là, ce qui vient d'être fait, c'est 60 personnes. S'ils ont fait signer cette lettre et tout ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, sinon, c'est une énorme attaque à la Convention de Genève et tous les trucs des droits de l'homme et tout ça, sur le fait de faire une déportation dans des territoires qui sont pas les tiens, quoi. Et donc il y a un irrespect total du droit international. C'est pas une surprise, hein. ils s'en foutent complet, et ça, après, derrière, ça a des conséquences humaines qui sont on sait que la tôle de Nouméa en Est, c'est quand même l'une des pires tôles gérées par l'État français, et tout globalement toutes les tôles des territoires coloniaux français, généralement c'est vraiment l'enfer, hein, que ça soit en Guadeloupe, en Guyane et autres. Enfin, c'est vraiment et à Mayotte, c'est vraiment affreux. Et après il y a tout ce truc de la manière dont c'est fait, quoi. Enfin, je veux dire, ce truc de ne pas pouvoir prévenir sa famille, tout ça, c'est pour éviter qu'il y ait la moindre début de solidarité avec les gens et le temps. Et ça, on prendra le temps d'en reparler avec les camarades qu'on fait tout staff pendant l'été. Mais le temps de réussir à trouver les gens pour pouvoir envoyer les mandats. Là, maintenant, en fait, il faut des permis de visite pour pouvoir envoyer les mandats. Mais sauf qu'en fait, les permis de visite pour pouvoir l'avoir, c'est que tu sois de la famille. Donc la famille, elle est là-bas, et ça te coûte 3000 balles pour pouvoir faire l'aller-retour. Enfin, et donc tu peux pas envoyer de mandat. Enfin, tout est fait pour foutre les gens dans un isolement le plus total, qu'il y ait le moins de solidarité possible. Et donc c'est juste aussi pour passer un message à l'intérieur. Bon, maintenant ça fait quelque temps que on l'avait passé à l'époque. Mais pour les gens qui nous écoutent à l'intérieur et tout ça, n'hésitez pas à filer des coups de main et faire preuve de solidarité. Parce que là, c'est vraiment infernal. Et après, c'est aussi une putain de punition collective. Et ça, c'est encore les trucs qui sont quand même insupportables. On va punir collectivement des gens en les transférant. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète, notamment, c'est tu vois, des gens qui auraient pu se rebeller dans ce cadre-là, ce qui serait de la rébellion plus que légitime, vu que c'est complètement illégal comme acte qu'ils ont fait, mais qui vont soit se reprendre des jours de mitard, soit être enfermés en France et puis commencer à se prendre des peines en métropole et tout. Parce que je dis ça parce qu'en fait, c'est des histoires qu'on connaît et qu'il y a lieu, et que là, tu commences à rentrer dans une boucle sans fin, quoi.
Ouais, et puis je pense que aussi, toutes ces méthodes-là, elles sont faites pour que tu craques, en fait. Et que c'est soit des gens qui ont des gros procès qui les attendent ou qui sont en instruction, ou en fait. Et c'est une stratégie à la fois de la justice, à la fois de l'administration pénitentiaire qui travaille très très bien ensemble, comme on le voit dans ces lettres. Et que, en fait, je pense qu'on vient de. Les lettres parlent d'elles-mêmes, en fait. Enfin, tout être humain dans ces conditions. Aussi peut craquer, et en fait c'est aussi ça qui est très fort dans leurs lettres, et aussi qu'ils aient aussi ce discours de la canaille qui vaincra. Enfin, c'est super fort, en fait, d'écrire ça, de rester toujours debout malgré tout ce qu'ils subissent, quoi. Et voilà, moi je voulais aussi dire ça, que nous on vous envoie toute la force possible, et que voilà, tenez bon, et en vrai vous avez déjà tenu bon jusqu'à là, et en fait c'est déjà le plus gros du taf, et j'espère qu'à l'intérieur ça va bien se passer, et voilà.
Ouais, et juste pour dire aussi, parce que c'est vrai qu'on en reparlera probablement plus en long en octobre, mais il y a encore deux personnes qui se sont fait tuer par les autorités cette semaine, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, et en fait c'est un peu important aussi de parler de là où ça s'est passé, parce que du coup ces deux personnes, elles sont mortes sur le territoire, elles se sont fait tuer sur le territoire de Saint-Louis, et donc en fait Saint-Louis c'est un territoire qui est juste à côté de Nouméa, et qui subit en ce moment un blocus hyper vénère des keufs, parce que apparemment les keufs cherchent des gens qui auraient été impliqués dans des violences qui ont eu lieu pendant les révoltes là, qui ont commencé en mai, et en fait du coup c'est un territoire sur lequel c'est très compliqué de sortir et de rentrer, qui est complètement coupé, donc en fait les gens ils ont plus accès aux soins, ils ont eu des coupures d'électricité super vénères, et globalement la liberté de circulation elle n'existe plus du tout à ces endroits là et du coup les keufs font des descentes pour pécho des gens dans un territoire qu'ils ont complètement bloqué, et les butent aussi, quoi. C'est vraiment un truc de ouf, et globalement en fait c'est aussi un truc à voir par rapport aussi à l'histoire de la Kanaky, l'histoire coloniale de la Kanaky depuis un siècle et demi, quoi. Parce que ces trucs de couper la liberté de circulation totalement comme ça, globalement, mais même les gens sur place font directement le lien avec le régime de l'indigénat que subissaient les Kanaks à l'époque, quoi. Enfin, voilà.
Non, mais c'est vraiment de l'occupation militaire et policière, voilà. Et ce qui est affreux, c'est que c'est présenté dans la presse actuellement comme c'est juste un simple contrôle d'identité, voilà. Alors que quand t'entends la parole des gens qui le subissent, en fait, ce n'est pas, enfin déjà, un simple contrôle d'identité pour pouvoir rentrer chez soi, c'est déjà inacceptable, mais c'est juste, mais pas du tout ça, quoi. C'est 15 fois pire et tout ça, et en plus ils butent à tir l'arigot, et dans la presse on parle de tribus, enfin je veux dire c'est difficile de faire plus dégueulasse que ce qui est en train de se passer. Et l'autre truc aussi qui est un peu qui est important, c'est qu'en fait il y a eu ces moments très forts d'émeutes et tout ça, mais pour l'instant en fait il y a rien qui s'est arrêté, voilà. Et ça a notamment repris après les incarcérations de pas mal de personnes qui étaient un peu les représentants de la CCAT et tout ça, et depuis en fait ça ne s'arrête toujours pas, voilà. Et pourtant en France on dit qu'il n'y a plus de problème, mais on continue à buter des gens, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est plus cool d'en parler avec des gens qui sont au plus proche de ce qui est en train de se passer, tout ça, parce que nous on n'a pas on a ces échanges et tout ça, mais on ne suit pas au quotidien vraiment comment ça se passe à 13 000 km et tout. Mais en tout cas pour tous les gens qui sont à l'intérieur, qui ont été qui ont été déportés, tout ça. S'il y a personne qui actuellement a encore pris contact avec vous, vous n'hésitez pas à nous écrire, on transmettra. Il y a un groupe de solidarité qui s'est mis en place, qui envoie des mandats, quand ils peuvent envoyer des mandats, qui ramènent des sacs de vêtements et tout ça, quand ils peuvent, parce qu'il y a toujours ce truc de permis de visite dans certaines tôles qui l'empêchent. Et pareil pour les gens qui sont au courant d'eux. N'hésitez pas aussi à nous écrire pour nous dire s'il y a des gens qui auraient besoin. Nous, on transmettra directement pour que ça puisse venir le plus vite possible. Et on souhaite vraiment plein de force à tous ces gens et aussi aux proches qui nous entendent pas parce que c'est là-bas, mais en tout cas c'est l'enfer et il y a des situations qui nous ont été décrites qui sont vraiment assez affreuses, quoi. On va passer un petit coup de zik.
J'pense à demain, j'ai un passé agressif comme une Camaro. J'veux que mes semaines soient remplies de voyages de dimanche à Bamako. J'vends la drogue et j'en suis pas fier, mais c'est pas ma faute car mes frères brûle de l'extérieur comme des chamallows. Parce que j'ai grandi dans le bendo. J'ai un sable mais je fais pas de kendo. Oh, oh, oh. Je ressens rien, mon cœur bat sur le tempo. L'être humain n'est pas très fiable. J'ai du mal à faire confiance. Parce que moi-même je suis mauvais, je cherche à améliorer ma conscience. Chaufferai, je demande aucune aide. Chaufferai, je demande aucune aide. Je pleure et je plante à l'opinelle. Car ma mélancolie est criminelle. Car ma mélancolie est criminelle. Lève les yeux au ciel, je sais qu'il y a que lui qui m'aidera. Je ressens cette haine en me demandant qui m'aimera. Mon espoir est mort il y a des années, mais je sais qu'il renaîtra. Maman, je suis comme un enfant quand tu m'acceptes dans tes bras. Je vois la mort dans les yeux de mes homies. On peut pas sourire, c'est une phobie. J'attends le bonheur comme un arrivage en colis. Je suis produit de mon environnement, une pâle copie, un énième alcoolique. Parce que le ciel qui nous gouverne n'est pas joli. Mon frère m'a dit le monde est à toi. Cerveau fracassé, je pense à quoi je suis avec. Deux, trois rebelles dans une voiture qui pense refaire le monde, le temps d'un à quoi. Aïcha m'a dit je veux que tu réussisses. Alors que moi j'espère que Dieu nous réunisse. C'est un rêve impossible, avant ça faut que je meure et que je ressuscite. Chaufferai, je demande aucune aide. Chaufferai, je demande aucune aide. Je pleure et je plante à l'opinel. Car ma mélancolie est criminelle. Car ma mélancolie est criminelle. Chaufferai, je demande aucune aide. Chaufferai, je demande aucune aide. Je pleure et je plante à l'opinel. Car ma mélancolie est criminelle. Car ma mélancolie est criminelle.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Puril 106.3, c'est toujours l'envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10 ou au 07 53 10 31 95 pour nous écrire l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris et contact@l'envolée.net par mail ou les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Insta. Alors moi je dois le dire, j'ai pas foutu grand chose sur ce point, voilà, mais qu'on se le dise, c'était c'est un truc qu'on avait préparé il y a un petit moment. Entre temps il y a un petit gouvernement qui a changé, tout ça, enfin voilà, c'était à la base une commission que tu veux peut-être nous expliquer, Rose, c'était quoi?
Oui, du coup c'était en gros une espèce de commission d'enquête sur le narcotrafic, donc qui a été une commission, un rapport parlementaire en fait, qui est donc qui a été lancé à l'initiative des Républicains. Et donc le rapporteur était Étienne Blanc, donc un républicain. Et je pense c'était quelque chose qu'on avait un peu taffé dessus avant la dissolution. Mais là, alors à la fois, je pense que c'était ce que disait Serge, c'est à la fois de la politique fiction, parce que ce rapport est, entre guillemets, à titre un peu indicatif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire, est-ce qu'ils vont finir par l'appliquer, mais dans ce contexte où, en fait, on a un Premier ministre LR et la moitié d'un gouvernement LR, plus les macronismes qui sont du même camp, on se dit que c'est quand même important de revenir là-dessus, parce que, même si, en fait, c'est important de dire que... parce que c'est un rapport qui est quand même très, très crade et qui fait très flipper. Mais c'est important... On ne sait pas ce qui va être mis en place vraiment dans la loi de ce rapport-là. Mais c'est quand même important de connaître un peu qu'est-ce qu'ils racontent sur le narcotrafic aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, quoi.
Et que... En fait, le moment où ce rapport est sorti le jour de l'évasion en mai de Mohamed Amra, où il y a eu deux matons qui sont morts. Et du coup, c'est aussi un truc, le fait que ça ait correspondu au moment de l'évasion, qui a donné aussi un peu de retentissement médiatique à ce rapport et qui a... Ben, en gros, quand même, Dupond-Moretti, il avait fait des annonces assez rapidement autour de ça, où il annonçait des dingueries qu'on va peut-être vous dire. Donc on ne sait pas exactement à quel point ça va être repris. Mais bon, globalement, un truc à l'initiative des Républicains avec le gouvernement qui s'annonce, on se dit que peut-être ils vont piocher dedans pour nous sortir deux, trois trucs, quoi.
Oui, et puis du coup, genre sur ce truc de Dupond-Moretti, c'est comme d'habitude des annonces que fait ce ministre qui n'est d'ailleurs plus là. C'est important de le rappeler, franchement, il nous avait bien fait chier pendant 4 ans. Mais qui en fait aussi est une espèce de continuité. En fait, toutes ces annonces, en fait, c'est une continuité d'un alignement en fait sur de l'antiterrorisme en fait, qui va finir par s'aligner par rapport au narcotrafic. C'est-à-dire que tous les trucs qui sont des mesures antiterroristes aujourd'hui, ils veulent progressivement l'appliquer sur le narcotrafic et aussi s'inspirer de toute la politique anti-mafia qui a été faite en Italie renforcer le contrôle sur le narcotrafic encore plus, quoi. Et en fait, ce rapport, je pense que la grande phrase de ce rapport, c'est, et qui est important de noter, c'est que ils veulent éviter que la France devienne un narco-État. Je pense qu'on peut bien se foutre de cette phrase quand même, parce que c'est quand même un peu ridicule, quoi.
Ouais, non, ce rapport, à la base, personne n'en avait un peu... Enfin, c'est des commissions d'enquête et tout ça, et donc les gens sont filmés, et ça avait quand même un peu gueulé sur les propos, notamment de certaines juges, et autres, notamment une juge à Marseille et tout ça, où tous les baveux avaient dit « Waouh, là quand même, on va très très, très très fort et très très loin dans les attaques qu'il y a contre la défense et tout. » Et donc il y a quand même eu après derrière cette fenêtre qui est faite. De manière générale, en fait, ces rapports, c'est toujours aussi un peu des ballons de baudruche, des ballons d'essai qu'ils envoient dans la société pour voir à quel point en fait va y avoir de la réaction par rapport à ça. Est-ce que en fait les gens s'en foutent, est-ce que en fait les gens s'indignent et tout ça. Et donc c'est aussi une manière un peu de tester comment ça va être perçu, et après derrière ils vont picorer deux trois petits trucs pour appliquer, soit ils prennent tout dans son ensemble et c'est affreux, soit c'est aussi affreux, mais ils en prennent qu'une petite partie, quoi. Et donc il y a plein de trucs bien cracra dans ces propositions.
Ouais, d'abord on voulait quand même préciser, avant de parler de ce qu'ils proposent sur la prison et sur globalement niquer le plus possible les droits de la défense dans les procès des narcotrafiquants, avec des guillemets, parce que c'est chelou d'avoir cette expression tout le temps et après on finit par l'utiliser. Mais il y a quand même une grosse partie du rapport qui concerne les territoires d'outre-mer, donc surtout la Guyane et les Antilles, et dans lequel ils recommande de, d'intensifier le niveau de contrôle là-bas sur vraiment une intensité quand même du genre contrôler 100% des passagers et des bagages en Guyane, d'étendre ce dispositif aux Antilles, d'accroître tous les contrôles et des trucs de ouf par rapport au phénomène des mules, donc gens qui rapportent, je sais pas comment décrire ça, mais qui rapportent de la drogue en métropole en prenant l'avion et souvent en avalant en fait des quantités de drogue quoi, et qui veulent en fait mettre des échographes dans les aéroports à la fois là-bas, au Guyane et aux Antilles, et dans les aéroports parisiens, et construire, je cite, des chambres carcérales médicales au sein des enceintes aéroportuaires. Quoi.
Quel joli mot.
C'est sympa, ouais. Chambres
carcérales médicales.
Mais du coup, juste pour dire que là, on va parler de ce qu'ils proposent sur la prison et sur les droits de la défense, mais qu'en fait, il y a quand même une grosse partie du rapport qui... en fait, ça va... Si le nouveau gouvernement là, décide de s'emparer de ce rapport, c'est quand même surtout sur les territoires d'outre-mer aussi que ça va...
Oui,
je sais pas quel mot utiliser.
Mais je pense que c'est important de se rappeler ce rapport, il fait 80 pages et que
plutôt 250 000.
Ah ouais, 250. Vous avez vu, je l'ai vachement lu franchement. C'est Louise qui a fait tout le taf. Non, mais voilà, mais je pense qu'il voilà, il fait beaucoup trop de pages pour être lu. D'ailleurs, c'est bien le but, je crois, Skip. Mais que enfin, je pense que c'est, cette insistance sur l'outre-mer, elle est vraiment genre ultra importante dans ce rapport. Enfin, c'est vraiment genre ça prend je sais pas combien de pages, beaucoup, et du coup genre on pouvait pas aussi skipper ça et passer sur la prison quoi.
Ouais, il faut voir ce que ça représente justement aussi pour qui va se retrouver en tôle dans les prisons métropolitaines, parce qu'en fait les personnes qui font les mules et notamment des meufs en fait se retrouvent en tôle métropolitaine hyper loin de leurs proches, coupées de tout, un peu comme ce qu'on décrivait aussi sur les prisonniers kanaks, dans des tôles d'Île-de-France après les contrôles des keufs quoi. Bah du coup peut-être on va vous parler un peu de toutes les dingueries qu'ils disent sur la tôle.
Oui, du coup, en gros, sur la tôle, bon, il y a toute une partie, enfin, la première partie de cette commission, globalement. Et ce qu'il raconte, c'est que, en gros, le passage en prison pour les narcotrafiquants, peut-être on peut utiliser un autre terme, mais bref, c'est que, en gros, ça devient pour eux un risque du métier. Et que, en fait, les narcotrafiquants ne prennent plus la prison comme un avertissement assez conséquent. Et ça, c'est clairement, genre, c'est aussi. Dire en fait ouvertement que la prison ne remplit plus son rôle et donc qu'il faut renforcer, donc c'est aussi toute la création que disait tout le truc que disait Dupond-Moretti sur la création d'un parquet national contre un parquet spécialisé sur la criminalité organisée, la création de un truc de crime d'association de malfaiteurs en bande organisée, de renforcer encore plus la répression et les peines que tu prends, parce qu'en fait les peines, globalement leur réflexion c'est que les peines que prennent ces gens ne sont plus assez et ne les dissuadent pas assez quoi, et c'est tout ça qui est dit à peu près.
Globalement, ils essayent d'écrire le truc comme, en fait, les prisons ne remplissent pas leur rôle qui est globalement celui d'isoler, parce que les gens pourraient, je sais pas trop comment prendre leur truc, mais attirer les ficelles de leur trafic depuis les tôles avec les téléphones et les virements. C'est un peu les deux trucs sur lesquels ils insistent, de prendre en fait le truc du narcotrafic pour mettre des règles générales comme d'habitude. En fait, ce rapport, il montre aussi ce qu'on raconte tout le temps, que tu vas prendre une catégorie de faits ou de personnes et ensuite vouloir l'étendre à plein de trucs. Et en fait, c'est déjà contenu dans le rapport, notamment sur la question des virements que tu peux faire en tôle, donc des mandats, où ils vont dire si on met pas de plafond sur les mandats, ça veut dire que les mecs ils peuvent payer des gens avec leur pécule. Donc nouvelle idée, mettre un maximum là-dessus pour empêcher ça et généraliser les brouilleurs pour les empêcher de communiquer avec l'extérieur quoi.
Et comme s'il y avait pas de plafond sur les pécules, parce qu'en fait, enfin je veux dire, une bonne partie, alors là j'ai plus les chiffres en tête, mais en fait une grosse partie de ton pécule au-dessus de 70 €, il commence à te ponctionner de la thune, et après c'est à chaque fois il te ponctionne 50% à partir d'un certain montant, en fait il y a déjà en fait des limitations qui sont faites quoi.
Ouais, et l'autre truc sur lequel il pète bien un câble, qui y a un truc aussi dont on parle souvent à l'envolée, c'est la question des étiquettes et des catégories de prisonniers quoi. Et en fait, il y a un truc un peu hallucinant dans le rapport, c'est que en fait, ils vont dire le régime DPS, donc détenu là particulièrement signalé, qui foutent sur la gueule de gens et qui restreignent de ouf ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur, et fait que c'est une étiquette qui est hyper lourde à porter à l'intérieur par rapport à ce que la paix te fait subir au quotidien et tout. En fait, elle suffirait plus pour cette catégorie-là de personnes, et donc il y a un peu l'idée qu'il faudrait créer une nouvelle catégorie. Et alors que, globalement, tu peux mettre des PS, des gens qui font du narcotrafic sans problème, on voit pas trop c'est quoi le problème par rapport à ça. Et en fait, le fait que ce rapport il soit sorti le même jour que l'évasion de Mohamed Amra, c'est venu un peu nourrir ce discours de « en fait, on n'a pas encore assez les outils pour réprimer des personnes susceptibles de s'évader ou ce genre de trucs, quoi.
Oui, tout ça, tout ce rapport, il montre bien ça, en fait. Alors, même s'ils font des petits tacs à l'administration pénitentiaire, comme quoi, quand même, ils n'arrêtent pas assez le trafic en prison, même si ça fait un peu des petits tacs, en fait, on se rend compte aussi que c'est les revendications de l'administration pénitentiaire depuis... la nuit des temps, et que le truc des brouilleurs, c'est un truc qu'on entend tout le temps, et qu'en fait, le renforcement des brouilleurs, ça va totalement dans leur sens. Enfin, en fait, cette mascarade, on l'a très bien compris, on sait aussi de quel côté ils sont, et ils la font à personne, quoi. Et ce truc de DPS, faut savoir quand même que pour être DPS, faut appartenir à la criminalité organisée locale, régionale, enfin, globalement. Quand t'as été condamné pour de narcotrafic, tu peux être DPS sans souci. Enfin, et ça, je pense, c'est un truc qui est bon de rappeler. C'est-à-dire que créer une nouvelle catégorie, c'est aussi du bullshit et une manière de réprimer encore plus les gens à l'intérieur, quoi.
Et que de toute façon, cette évasion qui a lieu en mai, elle sert déjà à plus réprimer les gens à l'intérieur, parce qu'on va dire, il y avait toute cette histoire du niveau d'escorte, qu'en fait, ils n'avaient pas foutu le bon niveau d'escorte sur Mohamed Amra avant... l'évasion, et du coup en fait il y a des gens à l'intérieur qui accèdent plus à des trucs auxquels ils avaient accès, parce qu'on va leur dire ouais mais après l'évasion c'est chaud, du coup on vous a bougé de telle catégorie, et en fait ils inventent tellement de catégories qu'à l'intérieur, même quand ça fait assez longtemps que tu fais de la tôle, tu sais même plus de quelle catégorie ils parlent et de à quoi elles renvoient, quoi.
Oui,
et
puis tout ce que les matures ils ont déjà obtenu après cette évasion là, en fait ils ont déjà obtenu plein de trucs, et il y a plein de trucs maintenant qui vont passer en visio, ça va changer de toute façon. C'est aussi la continuité de tout ça, quoi.
Mais du coup, là, donc il y a tout un discours de il faut plus bolosser les gens à l'intérieur là-dessus, mais en fait, c'est aussi sur... Serge, il disait que le rapport... les auditions des gens qui avaient été filmés avaient fait gueuler les avocats. Mmh. Et en fait, il y a tout un tas de recommandations dans ce rapport qui visent à niquer les droits de la défense, qui, ont déjà leurs limites, globalement, mais qui sont décrits comme un espèce de truc qui permettent aux gens de sortir quand ils veulent, en fait. Donc, t'as à la fois une description de, des avocats très malins qui vont, en fait, pouvoir profiter des vices de procédure pour faire sortir les gens, ce qui est aussi une autre manière de dire que les keufs et les procs et les juges d'instruction font globalement des papiers pourris sur lesquels c'est possible, ensuite, de trouver des vices de procédure. Mais aussi que, en fait, ce serait... il y a un truc de ouf dans le rapport qui est que ce serait une évasion judiciaire de pouvoir profiter d'un truc de droit pour pouvoir sortir. Et en fait, ils utilisent vraiment ce mot d'évasion judiciaire. Et du coup, c'est pas très clair la manière dont ils l'emploient, parce qu'en fait, ils font aussi référence à une affaire de 2023 où t'as des matons qui ont globalement se sont fait choper à aider des gens à sortir en bousillant des papiers, quoi. Mais globalement, ils généralisent ce truc au fait que si tu trouves une manière de sortir légalement de tôle par un vice de procédure, ils vont appeler ça une évasion judiciaire, ce qui est quand même un truc de ouf, quoi.
Oui, ils disent même qu'ils vont servir de la complexité du code pénal pour obtenir la fin de la détention, ce qui est quand même un peu fou. Et même après, dans le rapport, ils sont en mode « En fait, on ne dira pas les vices de procédure sur lesquels les avocats ont joué, parce que quand même, ça pourrait donner des idées aux gens après, quand même. » Et en fait, ça, c'est aussi... toute la continuité, parce qu'après, dans le rapport, en gros, ils veulent en mettre dans les procès un truc de coffre-fort, et donc ça serait toute une partie de la procédure policière qui ne pourrait pas être accessible aux avocats, aux prévenus, même, je pense que les juges auront accès comme d'hab, mais, et en fait, pour pouvoir cacher leurs moyens d'enquête et pour pouvoir en faire en sorte que les narcotrafiquants, les méchants qui en gros lisent les dossiers et se disent « Ah oui, je vais niquer les keufs sur ça », en fait, qui n'aient pas accès à ce qu'on fait la police pour en fait pouvoir les choper, quoi. Et ce qui est complètement hallucinant, quoi. C'est-à-dire que t'as toute une partie de ton procès, en fait on sait pas comment t'as eu telle info, on sait pas, et en fait les flics, on sait très bien, ils peuvent écrire n'importe quoi. Enfin, c'est aussi laissé totalement à la discrétion des keufs, quoi.
Est-ce qu'il y a déjà très généralement le cas. C'est-à-dire qu'en fait, si on va un peu suivre des procès qu'il y a dans du gros banditisme et tout ça, très souvent, il y a un moment, il y a une poucave quelque part, quoi. Mmh. Voilà. Sauf qu'en fait, on va jamais balancer sa poucave, quoi. Et on va surtout, parce que le vrai truc qui ferait tomber la chose, c'est que une poucave, faut pas qu'elle soit rémunérée. Sauf qu'en fait, dans la pratique, elle est toujours rémunérée. Et donc le truc, c'est que donc pour cacher le fait que y a une poucave qui est rémunérée, on va toujours dire Voilà. Et donc là, enfin, moi, je me souviens des trucs dans certains tribunaux où t'as les annonces, les pubs, les délires. Ah bah, d'un coup d'un seul, je me suis rappelé que j'avais déjà vu cette personne-là au marché un 24 décembre. Enfin, tu vois, et le keuf a eu une illumination à ce moment-là. Et voilà. Donc, c'est toujours des moments où là, bah, il y a généralement les avocats de la défense qui vont dire non, mais attendez, là, il y a des actes d'enquête qu'on nous cache et tout ça. Mais en fait, c'est déjà, comme c'est généralement le cas hein, dans ce genre de loi, mais en fait, c'est déjà une pratique assez récurrente de la police de faire des actes qui vont en fait être illégaux au niveau de la procédure judiciaire et tout. Mais qu'ils vont masquer, ou en tout cas pas déposer au dossier et tout ça. Là, ça va entériner ce truc-là, et surtout, ça va faire qu'ils vont rajouter. C'est toujours le même truc, c'est que tu donnes les droits nouveaux aux flics, et donc ils vont étendre encore plus. Et donc là, d'une certaine manière, ils se limitent un petit peu dans les actes illégaux. Là, ils vont en faire encore plus, parce que de toute façon, il n'y a personne qui va les regarder. Au niveau. Juste de purement. Enfin, donc ça existe déjà, mais au niveau purement. Légal quoi et si sur ce que doit être un procès c'est vraiment hallucinant sur ça me fait chier d'employer ce genre de trucs, mais sur l'aspect un peu démocratique de ce que ça doit se passer quoi, c'est-à-dire que toi tu vas voir l'État qui va faire des trucs contre toi auxquels tu ne vas pas avoir accès, on va t'accuser de trucs sur des bases auxquelles tu ne sais même pas, je veux dire. Quand t'entends des critiques de pays qu'on va considérer comme étant les pires dictatures et tout ça, ça fait partie des bails qu'on reproche. Et là, ça va devenir normal parce qu'il y a un truc. Voilà. Et c'est vraiment complètement délirant, quoi. Voilà. Et on va dire, non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, les juges, ils vont regarder ce coffre-fort, et donc, de toute façon, voilà. Mais par exemple, si tu prends les assises, en fait, c'est que de la procédure orale. Donc, ça veut dire que les personnes qui te jugent réellement, ça va être les jurés. Les jurés n'auront pas accès à ce truc-là. Il ne peut pas y avoir de procédure orale sur un truc auquel tu n'as pas accès, et donc, tu vas être jugé pour partie sur un truc auquel tu n'as pas accès. C'est réellement hallucinant, et je pense qu'en fait ça va à l'encontre, enfin je sais pas, en fait ça se trouve ça existe déjà en Italie et tout ça, mais ça me semble en tout cas aller vraiment à l'encontre de tout ce qu'on peut imaginer de ce que doit être un procès dans une démocratie quoi.
Et puis même pour des procès, enfin pour des longs procès d'assises, en vrai, même si bien sûr ça change rien à la peine de dinosaures que tu vas apprendre à la fin, parce qu'en vrai ils s'en battent les couilles de pourquoi, genre ils vont, enfin bref, ils vont toujours te mettre la même peine au final quoi, mais quand même j'ai assisté à des procès où en fait quand même, les avocats, ils font vraiment chier les keufs. Enfin, c'est-à-dire, en fait, il y a les flics qui sont devant les juges, devant les jurés, et en fait, ils doivent expliquer comment ils en sont arrivés à pécho les voitures, comment ils en sont arrivés à avoir telle info. Et en fait, des fois, c'est aussi ridiculisant. Il y a des moments où, en fait, les flics, ils sont ridicules parce que ça se voit qu'ils cachent des trucs, ça se voit que, voilà, et ben, comme tu disais, Serge, ils ont payé des témoins, mais en fait, ils vont pas le dire, mais en fait, tout le monde comprend que oui. Donc, du coup, aussi, leur discours sur des trucs, il est moins crédible. Et oui, c'est des petites miettes de pain dans un procès où, en fait, t'as toujours perdu d'avance, mais quand même, en fait, c'est des trucs qui comptent. Que les flics viennent s'expliquer aussi sur leur technique d'enquête à la fin de procédures énormes et que ce soit un truc qui se passe, et ben en fait, ce truc de procédure coffre, ça va aussi totalement empêcher ça. Et ça, c'est très grave.
Et ça s'applique en fait parce que ce truc de procédure coffre, toute l'idée des arguments qu'ils développent, en fait, c'est de dire le contradictoire menace les techniques d'enquête. Ouais. Que en fait les gens ils te dépeignent vraiment un prisonnier un peu diabolique comme ça qui passe son temps à creuser dans les documents pour apprendre quelles techniques d'enquête ont été utilisées contre toi, comme ça quand tu sors tu peux plus niquer l'État parce que t'as compris comment ça marche quoi. Mais le truc de faire une procédure coffre, ça veut dire que les avocats ont pas accès à ça et ne peuvent plus en fait découvrir les vices de procédure et la manière dont en fait ils font de la surveillance illégale et tout un tas de techniques d'enquête qui sont illégales. Et là, on ne dit pas qu'en fait, ça ne se passe pas, parce que de fait, c'est déjà un truc qui se passe beaucoup, mais le fait de l'entériner, c'est beaucoup plus tranquille, quoi.
Et peut-être, en fait, pour rappeler un peu ce truc de vice de procédure, en fait, c'est que pour faire des enquêtes, les flics, ils ont quand même un certain nombre de règles qu'ils respectent assez rarement, mais s'il y a autant de règles qui sont posées, c'est notamment sur le fait de respecter la liberté de toute personne qui est, pour l'instant, à ce moment-là, présumée innocente. Voilà. Et donc ça veut dire qu'en fait les keufs ils n'ont pas tous les droits dans leur manière d'aller enquêter, voilà. Bon, ça a sauté depuis, mais il y a encore quelques années tu n'avais pas le droit d'aller faire des perquis avant 6h du matin, enfin voilà, il y avait un certain nombre de trucs sur lesquels en fait des gens qui sont présumés innocents, on leur conservent en fait encore un certain nombre de droits, même si la justice et les keufs ont des choses à potentiellement leur reprocher, quoi. Voilà. Le truc, c'est que ça permet en fait d'éviter une forme d'arbitraire total, voilà, et de fait qu'en fait, il n'y ait pas un keuf tout seul dans son coin qui décide d'aller faire n'importe quoi, et on sait qu'ils le font. Enfin, je veux dire, en fait, les keufs qui vont consulter de manière illégale les fichiers ou ce genre de trucs pour voir si leur ex, elle est avec quelqu'un d'autre ou quoi, ou enfin, ce genre de choses, quoi, on connaît. Donc, en fait, ça a tout ce truc. Dans la pratique, en fait, on sait que en fait, ça ne les empêche pas d'incarcérer des gens, et voilà, mais c'est juste qu'en fait, ça protège à minima, genre de truc. Ce qui est complètement dingue, c'est qu'en fait, tous ces trucs-là, quand c'est les grands bourgeois, les Sarkozy, Fillon et tout ça, qui sont, eux, en procès, là, c'est absolument essentiel, et n'importe quel petit acte d'enquête est scandaleusement restreignant la liberté et tout ça, vraiment. Mais par contre, quand ça va concerner d'autres personnes, là, ça va être proprement scandaleux, quoi.
Mais d'ailleurs, c'est franchement, ils se cachent même pas dans le rapport. C'est-à-dire qu'il y a plein de... En gros, ils utilisent des... Ils disent, en gros, ils critiquent la Cour de cassation et deux avis qu'elle a rendus, et notamment un où, en fait, c'est un flic qui a consulté, sans avoir les accréditations, le TAJ, donc le fichier de traitement des antécédents judiciaires, où tu peux voir, bah, bref, les antécédents judiciaires des gens. Et donc, ce flic n'avait pas l'accréditation pour le faire, et la Cour de cassation a annulé, en fait, a annulé le procès, quoi, enfin l'enquête, enfin, bref, a fait une nullité du truc, quoi, du procès verbal, rédigé par le flic. Et en fait, ils utilisent ça pour dire que c'est pas normal. Enfin, c'est quand même un peu délirant, quoi. C'est-à-dire que même le peu de règles que les flics ils ont, en fait, même eux dans le rapport ils disent mais en fait on s'en fout, quoi. Enfin, on va pouvoir dépasser ça. Et pareil, en gros ils parlent d'une pose de balise. Enfin, la Cour de cassation a rendu aussi un avis sur une pose de balise sur une voiture où en fait il n'y avait pas eu l'autorisation d'un magistrat avant la pose de voiture de balise sur une voiture. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que oh bah quand même c'est un peu compliqué d'avoir l'avis du magistrat avant, qu'en fait ça peut arriver quand même, que bah voilà, les flics ils travaillent de nuit quand même, les pauvres, donc du coup, et puis les juges ils travaillent de jour, du coup bah ils ont pas eu le, enfin ils auraient pu rendre en fait l'avis 3-4 heures plus tard, en fait, quand le juge il est réveillé et puis il peut faire l'avis. Et c'est quand même fou, même entre eux, enfin d'en arriver à ce genre de truc, quoi, enfin à ce genre de, dans un rapport, d'assumer très clairement cette position de en fait nous voulons dépasser les limites, et ces limites, nous allons les dépasser, et de les nommer, et de nommer les trucs de la Cour de cassation sur lesquels les flics, ils n'ont pas respecté les procédures, quand même.
Il reste toujours aussi cette même manière de mettre en scène une espèce de fausse opposition entre les gens qui gouvernent et les gens qui et le droit, en fait, quoi, et les juristes. Bon, ce truc de dire, ouais, en fait, le droit, ça nous empêche un peu de faire tout ce qu'on veut, et après, t'as les juristes qui font, ouais, mais quand même, il y a des règles, machin, mais en fait, finalement, les seuls juristes qui ont gueulé contre ce rapport, c'est les avocats de la défense, parce que la juge d'instruction de Marseille, où la vidéo, elle a pas mal tourné, bah, elle est d'accord pour dire globalement... les méchants avocats de la défense font sortir les méchants de prison et que c'est un scandale, quoi. Mais du coup, c'est aussi à cet endroit-là que se met en scène cette espèce d'opposition entre, voilà, ces gens qui veulent arrêter le narcotrafic et le droit qui n'empêche pas, pour que ça évolue vers un truc plus vénère. Et moi, le truc que je voulais rajouter là-dessus qui est dans le rapport, après, il y a tout un tas de dingueries dans le rapport dont on n'a pas du tout le temps de parler, c'est ce truc sur les informateurs et les repentis, quoi. Et quand on disait qu'il y a un truc assez fort dans le rapport de dire... Voilà, en fait, il faut qu'on s'aligne sur des pays où ça marche mieux, donc ou des catégories en France où ça marche, genre on va créer un parquet spécial, un peu sur le modèle du parquet antiterroriste. Ça a parlé aussi de créer une DEA à la française, donc une administration spéciale contre la drogue et tout. Mais il y a aussi ce truc par rapport à l'Italie sur l'antimafia. Et notamment, en fait, ils disent, en fait, on est un peu ambigu sur cette question des repentis, qui est un truc qui existe en France depuis 20 ans, mais qui, en fait, marche beaucoup plus aux États-Unis et en Italie à partir des lois antimafia. Et en fait, on voit déjà en Italie que, par exemple, on avait pas mal parlé, je pense, il y a 2 ans, je me souviens plus quand c'était, du régime 41 bis que subissait Cospito, qui avait fait une grève de la faim hyper vénère pour en sortir. En fait, de base, c'était un régime réservé à des mafieux qui a été ensuite étendu à d'autres catégories. Donc là, on voit bien que c'est toujours ce même truc de glisser vers plus de... Enfin, vers d'étendre, en fait, des catégories de répression, et donc là, de la faire passer sur des trucs de narcotrafic. Et ce truc de repenti, en fait, ça nourrit aussi un peu un discours actuellement sur il faut qu'on revoie, en fait, ce truc des repentis en France pour généraliser ce truc, enfin, créer bah, créer des poucaves protégées, quoi, je sais pas trop ce qu'il faut en dire, mais qu'en France pour l'instant ça a pas trop marché, surtout que quand la loi elle a été passée il y a 20 ans, c'était un truc de bon, en fait les repentis c'est cool pour avoir des infos, mais quand même c'est un peu chaud de libérer des gens qui ont fait des trucs graves, du coup on a dit bon bah ça va pas concerner les gens qui sont poursuivis pour des crimes graves, ce qu'ils appellent les crimes de sang, quoi, et que maintenant il y a un peu un truc de, il faudrait généraliser ce truc là pour pouvoir plus niquer les trafics et utiliser ça dans les procès de plus grande ampleur, quoi.
C'est extrêmement dangereux, enfin tu vois comment ça va se passer et tout, voilà, et ça, en plus ils le font en plus sur des délits économiques et tout ça, et ça ils n'hésitent pas à le faire, et comme ça après les gens, ça par contre ça marche et ils leur foutent zéro amende ou presque, genre de choses, quoi. Quand tu disais dans la fausse opposition et tout ça, il y a aussi toujours ce même narratif des juges de gauche, quoi, enfin soi-disant les grands méchants juges de gauche qui libèrent tout le monde, quoi. Et c'est vraiment mais c'est ça, enfin on est si seulement voilà, il y aurait pas telle surpopulation, tant de population qui serait suremprisonnée, ça serait pas, enfin voilà, donc c'est vraiment bah voilà, enfin c'est bon, c'est des discours qui sont extrêmement politiques et complètement éloignés de la réalité, mais après derrière ça a des conséquences toujours très fortes, quoi. Donc voilà, il y avait d'autres trucs sur le on va peut-être mettre un petit coup de musique. En tout cas, on espère que c'est pas ça qui va nous tomber sur la gueule dans pas trop longtemps.
And bass up the track a little bit, cause I want to hear that boos, boos, you know what I'm saying? One, two. Now who got the flame that comes to dime a dozen that keeps a buzzing, thinking that they fat when they bustin'? Welcome to the world of Mac, or Mac, do you small like saying that eat them sis like Pac-Man? I'm incredible, better eat the vegetable, cause I does what I do. I fake the roof off a soft sucker, super smacking, macking, full effect, mic check, one, two. I'm a rain forever, rain like bad weather, rain like whoever never. You can't bite my style, cause my style ain't a style, that is a style, so I can go buck wild. Bet you figured you got more funk for flow, it ain't so. Flavor in your ear, let you know. Now I'm about a second from the hook, look, strap your rap book. Before you get your wet style shook,
can we get down, boy? Like super intended. Burning them seeds leaves a foul scent. See, I'm like what you call king of yes, y'all. My style brick sick. I mean real sick. This fit. I come with the ammo, the real whammo, stammo. Step the Dobby Diamond and always the quick. Must warm up the hot plate. I'm changing fate from the net. I'm a casket. My rap loves the alienate. Shake your ass till it's late. Get stumped by dominate. See, I ain't scared. It's me, you're all suckers. Cause I make the ruck, make it noise. Try the buckers, we roll bulletproof. No coof on the roof, biting like a saber tooth. I pound on the ground when I get down. So let me get down, let me get down. Get down.
Than the devil fang. I ain't met who can hang. If you're testing in your lesson, got me dressing for your funeral session. Man, it won't even matter no more. Dragon I four just won the war. My style will definitely take you over. Have you sitting looking over than the Ford or Chevy Nova? Why I order?
Smack it down, man.
I figure it's a slaughter in the world of dollars. And this shit ain't nothing but a quarter.
Break it down.
The name of the track is Get Down, so let me get down and pound up the MCs in the ground.
Can I get down?
Get down, boy.
Get down, boy.
Ah. Like that.
Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel et en diffusion un peu partout en France tout au long de la semaine. On va pas rappeler toutes les infos pour nous contacter parce qu'on a plus trop de temps. Donc on a passé l'après-midi dans ce joyeux tribunal de Créteil. Parce qu'il y avait un surveillant qui n'est plus surveillant maintenant, parce qu'il paraît, mais on n'a pas pu voir la fin de l'audience, mais qui serait devenu maintenant directeur de Sarreguemines, donc de la tôle de Sarreguemines. Mais donc Xavier Patrou, qui est pas trop sympa. Pardon, excusez-moi, il faut que je fasse des blagues parce que vraiment je suis tellement vénère. En 2020, il y a Karima qui était une prisonnière à la MAF de Fresnes qui s'est suicidée au mitard de Fresnes. Faut raconter ce qui a eu avant. Voilà. Karima elle avait pris une peine de ferme, mais elle avait directement obtenu un aménagement et sous bracelet. Et en fait, au bout de quelques mois, au milieu du confinement en mars 2020, elle a sectionné son bracelet et elle s'est cassée. Voilà. Et donc après, derrière, elle va être incarcérée à la MAF. Elle avait fait des démarches d'aménagement de peine et tout ça. Elle avait obtenu un aménagement de peine 2 jours avant qu'elle aille au mitard. 2 jours avant, elle se plaint. On ne sait pas trop vraiment pourquoi et tout ça. Si, elle veut changer de cellule. Elle veut changer de cellule et tout ça. Donc, bon, on imagine que ça se passe pas très bien avec la co et tout ça. Enfin, voilà. Et donc, elle va voir le chef de détention, donc ce Xavier Patrou, et qui, lui, va. Enfin, ça va un peu gueuler dans le bureau, mais tranquillement et tout ça. Et donc, il va décider de la mettre dans la cellule. Je sais plus comment il l'appelle. Là, de passage là où je sais plus trop comment, enfin en tout cas une cellule où dans la salle d'attente, voilà. Et au moment où il veut la mettre, en fait elle gesticule de ses bras et tout ça en disant que ça la fait chier quoi, mais rien de grave, voilà. Tous les autres surveillants, c'est aussi ça le truc, c'est que c'est un procès où il y a un surveillant qui se fait lâcher par ses collègues, ce qui n'arrive pas tout le temps. Voilà, tout le monde dit, donc elle gesticule les bras et lui, il va lui choper les bras pour les remettre droit sur elle. Et là, Karima, elle s'énerve, mais le seul truc qu'elle va faire, c'est filer un petit coup de pied à ce maton. Et par contre, après, derrière, il va raconter une histoire comme quoi elle a essayé de choper un stylo qui était dans ses cheveux pour essayer de lui planter dans l'œil. Voilà, donc ça, il n'y a que lui et puis une autre surveillante qui l'a vu, surveillante qui reviendra sur ses propos en disant que il lui avait fait pression pour qu'elle raconte ce truc-là et tout ça, mais n'empêche que le tribunal n'est absolument pas revenu là-dessus. Pour ça, Karima, elle va prendre 30 jours de mitard. C'est ce qu'ils ont dit au tribunal, c'est que c'était la première fois qu'il y avait les 30 jours qui étaient foutus au mitard à la MAF de Fresnes, que ça arrive assez régulièrement à Fresnes, voilà, mais que à la maison d'arrêt des femmes, c'est la première fois que cette sanction, elle était foutue et tout, donc une peine de ouf.
Sachant que c'est la peine maximale.
Voilà, c'est ça, c'est la peine maximale et tout ça. À ce moment-là, elle est ultra sous le choc, elle réagit pas trop. La directrice qui vient de foutre la sanction. Ah oui, puis avant, en fait, il avait fait pression en disant qu'elle avait intérêt de partir au mitard et tout ça, que c'était un truc de ouf. Et en gros, voilà, donc déjà, une fois qu'il y a l'agression, enfin l'agression, le petit coup de pied, pardon, voilà, parce que l'agression, en fait, il vient de Patrou qui vient toucher Karima, qui n'a pas besoin de la toucher, en fait, voilà, elle est foutue d'office au mitard en préventif, et elle prendra, deux jours plus tard, ses 30 jours de mitard. À ce moment-là, c'est pas extrêmement très clair si elle apprend qu'elle a l'aménagement de peine, mais elle est quasiment sûre de l'obtenir, quoi. Voilà, quand elle apprend l'annonce et tout ça, la directrice qui lui fout la sanction, elle est un peu surprise par la réaction de Karima, qui est perçue comme étant quelqu'un qui réagit généralement à ce genre de truc. Et là, en fait, elle est vraiment sous le choc, elle réagit pas du tout, voilà. Elle va au mitard de manière assez tranquille et tout, et après on se rend compte que elle va pas bien du tout, voilà. Et il y a même la responsable, la gradée du mitard, qui annonce plusieurs fois à ce Xavier Patro que elle est complètement en larmes, qu'elle va pas bien du tout, que c'est l'enfer et tout ça. Et en fait, ce gars-là, juste par une putain de vengeance de merde, parce qu'il était vénère de s'être pris un petit coup de pied, ne va jamais avertir la directrice de l'établissement pour qu'elle puisse la sortir. Et là, c'est là où va y avoir tout ce truc, où elle va être lâchée, il va être lâché par la détention. C'est que la directrice de l'établissement va commencer à dire dans les PV, ouais, moi, si j'avais été au courant, je l'aurais sorti. Alors bien sûr, à ce moment-là, dans la salle, les gens, ils font, non, en fait, c'est pas vrai. Enfin, voilà, il y a les proches et tout ça qui disent, bah non, on sait très bien. Voilà, mais pour se défendre et tout ça, et voilà. Et donc le tribunal lui ont posé plein de questions sur oui, mais alors comment ça se passe et tout ça. Et lui, il n'arrêtait pas de revenir sur le fait que la gradée du mitard n'a jamais dit qu'il y avait un risque suicidaire et tout ça. Et lui, il n'a pas considéré, alors qu'il y avait plein de papiers qui disaient que pouvait y avoir des risques suicidaires avec elle, qu'il y avait déjà eu des tentatives à certains moments et tout. Voilà, et donc il va juste échanger avec cette gradée du bâtiment. Elle, la gradée du bâtiment, comprend pas pourquoi il réagit pas. Elle va même revoir la meuf en disant, elle va revoir Karima en disant, mais non, mais là il y a un problème, juste avant de partir et tout ça. Et voilà, donc c'est vraiment hallucinant, comme il disait, mais en fait. On m'a pas dit crise suicidaire, donc moi je peux pas considérer qu'il y a un truc et tout. Et surtout, en fait, il a refusé de faire remonter l'information parce que, en gros, ça le faisait chier qu'elle puisse être libérée directement. Voilà. Et enfin, libérée du mitard. Hein. Donc, enfin, voilà, quand même, faut rappeler le truc. Donc, il a dit des trucs, mais complètement délirants à la barre, en disant s'il y a quelqu'un qui se met un truc autour de la gorge au mitard, il sera tout de suite libéré. Enfin, voilà, mais ce qui est complètement faux, quoi. Voilà. Et donc, le tribunal n'a absolument pas levé le petit doigt pour dire que quand même dire ce genre de conneries à ce moment-là, voilà. Et l'autre truc aussi qui est toujours hyper agaçant dans ces formes de procès, je suis désolé, c'est un peu confus et tout ça, mais voilà. Oui, voilà, et en fait, il a dit aussi à plein de moments qu'en fait, il en avait marre d'elle. Quand on lui a dit, mais pourquoi tu réagis pas, il a dit, non, mais je préfère réagir pour tel truc, pas pour cela. Enfin, voilà, en fait, il a vraiment fait le choix de ne juste avertir personne, et surtout ne pas avertir la directrice de la MAF, qui, elle, était en mesure de pouvoir prendre ou non la décision de la sortir du mitard. Voilà. Donc c'était assez ouf dans ce sens-là. L'autre truc qui était aussi complètement ouf, et ça a été hallucinant, parce que le président du tribunal a dit qu'il ne jugerait jamais. Qu'en tout cas c'était pas du tout ça, et que c'était pas, voilà, il a dit peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui considèrent que les 30 jours de mitard c'était pas une bonne sanction et tout ça, mais le tribunal jamais de la vie n'aura à juger ce genre de choses, voilà. Et ça, pareil, en fait, c'est encore un truc de ouf où on va donc là il y a l'administration pénitentiaire qui lâche un de ces gars, qui le lâche entre guillemets, hein, parce qu'en fait il a la protection fonctionnaire, donc il se fait payer ses avocats. Ils étaient quatre au niveau de la barre, ils étaient quatre avocats pour lui et tout ça, qui sont payés gratos par l'État et nos impôts. Et de l'autre côté, donc il y avait ça, et de l'autre côté, ils l'ont fait passer quand même directeur de tôle et tout ça, donc ils l'ont lâché quand même qu'à moitié, voilà. Mais voilà, donc on s'est barré au milieu du truc, et donc voilà, on a fait passer, peut-être que les proches viendront nous en parler, on prendra le temps un peu plus, mais on voit vraiment bien l'ignominie de ce mec qui voulait, incapable de donner une punition par lui-même, utiliser la justice et puis les moyens que lui donne l'administration pénitentiaire pour pouvoir se venger. Il était bien content de savoir la souffrance qu'avait Karima, et voilà. Et donc après, derrière, il justifiait tout ça, et c'était ouais, j'ai pas envie d'avoir un procès en diffamation.
Mais aussi parce qu'on dit souvent, enfin, que on parle des morts suspectes en prison et tout, et des fois on parle de, enfin, en fait, voilà, qu'il y a un prisonnier, une prisonnière qui meurt tous les 2-3 jours, et là, en fait, ce procès, il permet de voir comment on arrive au suicide, que c'est pas juste quelqu'un de triste dans sa cellule qui se pend, quoi.
Non, non, là, c'est la prison qui suicide, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais la prison qui suicide, parce que c'est extrêmement clair. Bon, on aura probablement, j'espère, le temps d'en reparler un peu plus longuement. On avait un événement à parler, enfin, commencer tout d'abord avec Doriano, dont on a parlé.
Doriano, dont on avait un peu parlé il y a une ou deux émissions, qui est un jeune de 24 ans qui est mort à la Talaudière le 1er septembre, et on voulait juste dire que ses proches ont créé une page Facebook qui s'appelle Justice pour Doriano. Si vous voulez regarder un peu les nouvelles, et si vous êtes dans quoi de santé, éventuellement de les soutenir dans leur mobilisation. Et on voulait aussi annoncer un événement contre l'antitsiganisme qui aura lieu le jeudi 26 septembre à 19h à Paris 18e, donc 42 rue de Clignancourt. Et donc il y aura Aurélie Garand qui viendra notamment parler de son livre Depuis qu'ils nous ont fait ça, qui parle de la mort de son frère Angelo en 2017 par les keufs, enfin par le GIGN, et La Voix des Roms.
On a des petits coucous à passer. Un coucou à Pascal, à Kémy, à l'infâme, à Redouane, à Poupouche Blanche,
à Aurélie.
En tout cas, tous les prisonniers et prisonnières de France. Force, courage et détermination. On attend un peu. Enfin voilà, on espère que ça va à l'intérieur. Le climat en ce moment est quand même un peu fait quand même, bon, il faut meubler parce qu'on a 30 secondes donc je suis obligé de les tenir, voilà, mais en tout cas voilà, on voit quand même que ça continue à avancer les offensives et tout, et il faudra continuer à prendre le temps de discuter de tout ça. La semaine prochaine on fait pas d'émission, mais donc il y aura un enregistrement à la place. Fort courage et détermination, et
il n'y a pas d'arrangement.
Ah, elle a passé. Ah oui, mais il y avait 30 secondes. Non, si, c'est elle est passée.